Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le temps de Noël est l'occasion de nous rappeler que notre Seigneur est venu sur la terre pour nous sauver. Mais il n'est pas venu seulement pour sauver les âmes individuellement, il a voulu aussi restaurer la famille. C'est ce que nous rappelle la fête d'aujourd'hui. Dans cette œuvre de salut, notre Seigneur a un ennemi. Un ennemi qui non seulement cherche à nous faire tomber en enfer, mais qui cherche aussi à détruire les familles. Rappelons brièvement ce matin ce que le démon a fait pour détruire la société familiale et nous chercherons un remède. Dès la création de l'homme, le démon est venu mettre le trouble dans le plan de Dieu. Adam et Ève étaient heureux et dans la grâce de Dieu. Et ils devaient fonder une famille heureuse où aurait régné la paix et le bonheur, le seul vrai bonheur qu'on peut goûter ici-bas, celui d'une famille unie et sans tréments. Mais vous savez comment le démon fit pécher nos premiers parents et le résultat fut que le travail du père de famille pour gagner le pain de la famille est devenu pénible, que la soumission de l'épouse à son mari et les peines dues à ses maternités sont source de souffrance et qu'enfin les enfants n'obéissent pas facilement à leurs parents, qu'ils se jalousent et qu'ils se disputent facilement. N'est-ce pas dès la première génération que Caïn, le premier né d'Adam et Ève, a jalousé son frère et l'a tué. Passons sur toutes les turpitudes que l'Antiquité païenne a connues dans les familles et qui sont consignées dans la littérature ancienne. Les adultères, les incestes, les infanticides, les parricides, les maricides, etc. Notre Seigneur, la Sainte Vierge et Saint Joseph, ayant restauré l'idéal d'une sainte famille, le démon a dû battre en retraite. Et pendant toute l'époque de la chrétienté, la famille a été relevée grâce à l'Église et aux princes qui ont institué des lois chrétiennes. Dans tous les pays chrétiens, on a vu des mœurs familiales admirables et des exemples de sainteté. Toutefois, le démon veillait et il profita de la Révolution française pour détruire la législation chrétienne et la remplacer par une nouvelle législation antifamiliale. Dès le 20 septembre 1792, la Révolution instaura le mariage civil et autorisa le divorce. La même année, elle supprima le droit d'aînesse. Cela entraîna le partage des successions et donc la suppression des patrimoines familiaux, acquis par des générations de travail et d'économie. Pour essayer de conserver leur patrimoine familial, les parents en vinrent à limiter les naissances, souvent par des procédés pécamineux, ce qui eut un double résultat fâcheux. D'abord, un châtiment divin pour punir ses péchés, ensuite un déficit de naissance dramatique pour notre pays. Puis ce fut l'impôt sur les successions, d'abord fixé à 1% pendant la Révolution française, il peut atteindre aujourd'hui 45% en ligne directe et 60% en ligne collatérale, ce qui est tout simplement du vol. Les familles ont donc perdu leur patrimoine familial, ont eu peu d'enfants, mais le démon ne s'est pas contenté de cela. Depuis une cinquantaine d'années, notamment, grâce à la franc-maçonnerie, il multiplie les lois antifamiliales. En 1967, nous fêtons le 50e anniversaire, nous l'avons juste fêté il y a peu, le franc-maçon Lucien Neuwirth fit voter la loi en faveur de la contraception. Pour la petite histoire, les communistes étaient contre cette loi parce qu'ils y voyaient un procédé pour favoriser les patrons contre les ouvriers. Puis ce fut le franc-maçon Pierre Simon, grand maître de la Grande Loge de France, qui fit voter la loi pour l'avortement. Et chaque année, ces lois deviennent plus larges et plus obligatoires. Plus récemment, vous le savez, une loi abominable permettant les unions contre nature a été votée et on nous promet encore des horreurs pour cette année. Parallèlement à cette évolution des lois, une évolution de la pensée est intervenue dans l'enseignement officiel. Dans les facultés de médecine aujourd'hui, on enseigne que la morale doit être soumise à l'éthique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de morale obligatoire, mais qu'on doit se plier aux règles éditées par la République. Par exemple, un médecin ou une infirmière catholique, même si sa morale catholique lui enseigne que l'avortement est un crime, doit, dans l'exercice de sa profession, appliquer l'éthique républicaine et pratiquer l'avortement. Récemment, j'ai entendu une conférence et on fait même venir des infirmières ou des médecins catholiques pour expliquer cela aux étudiants pour qu'ils comprennent bien. On pourra ajouter encore toutes les inventions technologiques modernes qui se répandent sans restriction, qui détruisent l'intimité familiale, la télévision, l'Internet, le smartphone. On pourrait parler aussi de l'Église conciliaire qui, par ses lois permissives sur les annulations de mariage, sur la communion donnée aux divorcés soi-disant remariés, par son silence aussi sur les questions de l'avortement, de la contraception, ne fait que favoriser ce travail du démon. Que faire? Quand un pays est attaqué, que fait-on? On choisit le meilleur chef possible pour conduire la guerre. Un proverbe chinois dit « Je crains plus une armée de lièvres commandée par un lion qu'une armée de lions commandée par un lièvre. » Autrement dit, la qualité du chef est de première importance. Or, précisément dans la famille, il y a un chef qu'on appelle le chef de famille. Nous allons donc parler un peu ce matin de son rôle, ce qui n'est pas une raison pour les autres de ne pas écouter, car le chef de famille remplira d'autant mieux sa tâche que les autres membres de la famille la lui faciliteront. Il n'est pas possible ici de rappeler tous les devoirs du chef de famille. Nous en signalerons simplement trois, vous renvoyant pour plus de détails aux ouvrages traitant de la question, notamment le très bon « Catéchisme de l'éducation » de l'abbé Bethléem. Rappelons donc ce matin aux chefs de famille, d'abord qu'ils doivent connaître leurs devoirs, ensuite qu'ils doivent faire respecter leur autorité, enfin qu'ils doivent exercer cette autorité. Avant de devenir médecin, avocat, officier, on étudie et on s'exerce pendant des années. Et pour l'art des arts, celui de gouverner une famille et d'éduquer des enfants, on n'aurait pas besoin d'un apprentissage. Normalement, c'est avant le mariage, notamment pendant les fiançailles, que le futur mari doit s'enquérir de ses devoirs. Mais cette formation, à supposer qu'elle ait été bien faite, est loin d'être suffisante. Dans toutes les professions, on continue de se former. C'est ce qu'on appelle la formation permanente. Dans l'art de gouverner une famille, il faut aussi perfectionner ses connaissances. Il faut donc étudier ou réviser les principes de l'art de gouverner, réfléchir sur les expériences acquises, consulter demander conseil. C'est une erreur de penser qu'on possède la science du gouvernement simplement parce qu'on a quelques qualités naturelles ou parce qu'on a reçu le sacrement de mariage. La grâce suppose la nature et la nature se perfectionne par l'art. On est poète, on devient orateur, disait Cicéron. On pourrait dire, on est avec quelques qualités, mais on devient bon père de famille par beaucoup d'efforts. Donc, quel que soit notre âge et notre expérience, tant que nous avons la charge d'une famille, perfectionnons nos connaissances pour bien connaître notre tâche. Le deuxième devoir du père de famille est de faire respecter son autorité. Monseigneur Lefebvre disait que la notion qui avait le plus souffert du Concile Vatican II était la notion d'autorité. Et après le Concile est venu 1968 qui a affaibli encore cette notion. Nous sommes dans l'époque de la démission des autorités. Il faut réagir et d'abord dans le cadre de la famille. C'est dans le père de famille que réside principalement l'autorité. Il reçoit cette autorité de Dieu immédiatement et de Dieu seul. Cette autorité est inaliénable, même si elle prend un visage différent au fur et à mesure que les enfants grandissent. L'autorité du chef de famille s'étend sur son épouse et sur ses enfants. Sur son épouse, comme sur son associé et sa collaboratrice pour l'éducation des enfants, car dans toute société, même élémentaire, il faut un chef. Sur ses enfants, le chef de famille partage son autorité avec son épouse pour leur éducation. Pour obtenir que son autorité soit respectée, il faut d'abord que le chef de famille la respecte lui-même. Son autorité lui vient de Dieu. C'est un dépôt sacré qui lui est donné pour le bien de la famille. Pour prendre l'image de la parabole des talents, c'est un talent que Dieu lui a confié et qu'il ne doit pas enfouir, mais faire fructifier. Trois conseils sont donnés par les auteurs pour faire respecter son autorité. Le premier est une bonne entente entre les époux. Il faut que le mari respecte l'autorité de son épouse sur ses enfants et que celle-ci respecte l'autorité de son mari sur elle-même et sur les enfants. Si l'épouse est soumise, les enfants seront facilement obéissants. Le deuxième conseil, c'est que le père de famille mène une vie irréprochable, estimable et vénérable, tant vis-à-vis de sa femme que de ses enfants. L'épouse et les enfants seront d'autant plus respectueux de leur mari et de leur père qu'ils l'admireront davantage. Et ils l'admireront si celui-ci se rend admirable par les efforts qu'il fait pour donner l'exemple d'une vie vertueuse. Enfin, le troisième conseil pour faire respecter son autorité, c'est de corriger et de réprimer les défauts qui atteignent cette autorité. Les auteurs en signalent trois principalement: la suffisance, la familiarité, la critique. La suffisance, c'est par exemple un enfant qui se vante d'apprendre à l'école des choses que ses parents ignorent. Il faut réprimer ce petit vaniteux en lui faisant remarquer que ce vernis de science ne vaut pas ce que l'âge et l'expérience ont appris à ses parents, et qu'à côté de ses quelques connaissances, il a des abîmes d'ignorance. La familiarité et la critique sont aussi nuisibles au respect. Il ne faut pas les tolérer chez les enfants, mais il ne faut pas non plus que ces défauts existent chez les parents. Dans une famille où le père critique continuellement ses patrons ou le clergé, les enfants perdront le respect vis-à-vis de l'autorité. Connaître ses devoirs, faire respecter son autorité, ne suffit pas si l'on n'exerce pas cette autorité. Sans cela, on serait semblable à ces statues qu'on vénère, mais dont les oreilles n'entendent rien, les yeux ne voient rien, les bras et les jambes sont immobiles et donc sont inutiles. Nous nous contenterons ce matin de deux remarques à ce sujet. D'abord, il faut un minimum de présence. On ne peut habituellement exercer une véritable autorité à distance et par procuration. À la fin du Moyen Âge, s'est répandue la mauvaise institution de la commande dans les abbayes. L'abbé commendataire était un grand personnage à qui l'on confiait une abbaye pour en percevoir les fruits, mais qui n'habitait pas sur place. C'est ce qui vous explique qu'il y a un prieuré à quelque distance du couvent où habitait le prieur commendataire quand il venait passer ici quelque temps pour percevoir les revenus du couvent. Évidemment, ce système a eu des résultats fâcheux. Aujourd'hui, il n'est pas toujours facile aux pères de famille d'être présents autant qu'il serait souhaitable. Mais de tout temps, il y eut des professions où le père était absent pendant des périodes plus ou moins longues, par exemple chez les militaires ou les marins. Il faut dans ces cas trouver un moyen de pallier à ces absences si l'on ne peut les éviter et garder un rapport direct, personnel, régulier avec les divers membres de la famille. Cela dépend de l'âge des enfants, mais il est bon, par exemple, qu'un père de famille fasse certaines activités avec ses grands garçons, comme une excursion un peu longue, pour pouvoir avoir facilement et naturellement avec eux des conversations plus profondes. Autre conseil pour l'exercice de l'autorité, savoir tempérer la douceur et la fermeté. Le meilleur exercice de l'autorité, dit un auteur, est celui dont la sagesse dit qu'il arrive à ses fins avec force, en disposant toutes choses avec suavité. Celui, dit saint Ignace, qui est doucement efficace et efficacement doux. Celui, dit saint François de Sales, que caractérise une douceur ferme et une fermeté douce. Celui, dit saint François d'Assise, où le supérieur, à la fois craint et aimé, n'énerve point la discipline par une fausse indulgence et ne pousse pas les âmes à leur perte par une rigueur excessive. Un dernier conseil. Ne jamais se décourager. Quelle que soit notre insuffisance, nos erreurs, nos fautes, nos difficultés, croyons que Dieu, notre Seigneur, est toujours là, toujours prêt à agir avec nous et par nous pour le bien de la famille. Tâchons donc de travailler à nous améliorer. Prions, lisons, demandons conseil, tirons parti de l'expérience. Confions-nous au Sacré-Cœur de Jésus en faisant l'intronisation, si elle n'a pas encore été faite dans nos familles. Confions-nous au Cœur Immaculé de Marie, ainsi qu'à Saint-Joseph, chef de la Sainte Famille. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.